Marcher vers le bien-être avec Denis Chagnon.
Chers amis, bonjour. Je m'appelle Denis Chagnon et je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues à Marcher vers le bien-être. J'espère que vous vous portez bien. Je vous invite cette semaine à une exploration des sentiments et des émotions que nous avons probablement tous ressenties lors du retour à la maison après des randonnées de longue durée, un chemin de Compostelle, des aventures de trekking en montagne ou encore des stages prolongés à l'extérieur. Notre guide est Noëlla Groulot, jusqu'à récemment ergothérapeute et elle-même une grande marcheuse. Noëlla nous parle de sa propre expérience au terme de ses jours en Nouvelle-Zélande, en Inde, au Japon et ailleurs dans le monde. Elle nous explique aussi la façon dont elle a vécu ces périodes de reprise de contact avec la vie de tous les jours après avoir baigné dans une toute autre réalité pendant de très longues périodes. Noëlla nous prodigue aussi quelques conseils pour faire le pont entre une réalité très éloignée du quotidien que nous retrouvons parfois avec difficulté. Son expérience en ergothérapie est d'ailleurs mise à profit lors de rencontres du groupe Méditation Verdun et d'ateliers portant sur la thématique du retour présentée au centre La Tienda à Verdun. En deuxième partie d'épisode, notre serein pèlerin Michel O'Neill nous présente sa dernière chronique de la saison des trouvailles du serein pèlerin. Alors que sa première chronique de la saison portait sur une manière artistique de marcher dans les escaliers de la ville de Québec, le voici qu'il boucle la boucle avec une manière athlétique de marcher dans ces mêmes escaliers. Je vous souhaite bonne écoute et bonne réflexion. Alors, bonjour Noëlla et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour parler de cette transition parfois un peu difficile après de très longs voyages à l'étranger, des compostelles, des randonnées de longue durée et ainsi de suite. Alors, merci beaucoup d'être avec nous.
Ça fait plaisir. Merci.
Pour mettre la table, j'aimerais qu'on parle d'abord de votre profession que vous avez exercé pendant de nombreuses années, celle d'ergothérapeute. En fait, c'est quoi l'ergothérapie?
Bien, l'ergothérapie, c'est la réadaptation. La réadaptation, ça peut être à tous les niveaux, physique, auprès des enfants, auprès des adultes et des personnes âgées. Personnellement, j'ai travaillé en santé mentale toute ma vie, en ergothérapie. Puis, les dernières années, j'ai été travailleur autonome. J'ai travaillé auprès de personnes qui étaient en arrêt de travail pour des problèmes de santé mentale, donc burn-out, comme on dit communément, oui. Aussi dépression, troubles anxieux. Et puis, pour faire la réadaptation, donc améliorer leur côté fonctionnel, leur capacité, leur donner des outils, des stratégies afin qu'ils puissent retourner travailler, que se sentent bien outillés pour le retour au travail.
Et qu'est-ce qui vous a attiré vers cette carrière, cette profession?
Quand j'étais plus jeune, j'ai toujours aimé faire des activités manuelles. J'aimais la couture. Et puis, faire des trucs, je trouvais des choses, j'allais dans le garage de mon père, puis avec le bois, je jouais avec le bois et tout ça. Oui, puis, oui. Je voulais faire quelque chose qui va aider, mais aussi utiliser l'aspect manuel. Et quand je regardais les définitions d'emploi, de travail, de cours, de formation, bien, ergothérapie, c'est ce qui m'avait le plus accroché. Donc, j'ai décidé de m'orienter en ergothérapie.
Vous avez complété vos études, vous avez commencé à travailler dans le domaine et puis, après un petit bout de temps, vous vous êtes dit, bah, c'est peut-être pas ce que je veux, dans le fond, le genre de vie que j'aimerais mener. Puis un jour, vous avez décidé d'aller en Nouvelle-Zélande, ce qui vous a amené à vivre une vie tout à fait différente.
Oui, l'idée de la Nouvelle-Zélande, c'était un an après, presque un an, là, un peu plus qu'un an après la graduation et puis après avoir commencé à travailler. Puis, j'étais comme déçue du monde du travail. J'avais pas réfléchi à ce que ça allait être. Et puis, ce que j'entendais, c'était « Oh, j'ai tellement hâte à mes vacances. » Comme si le travail, c'était quelque chose de lourd et puis qu'on attendait les vacances pour vivre. Mm-hmm. Et pour moi, c'est comme, ben, c'est pas ce que je veux de ma vie. Je veux pas souffrir au travail puis rêver à mes vacances. Donc, ça, je me suis dit, je veux vivre autre chose parce que j'étais pas prête à ce moment-là d'avoir des enfants, d'avoir un conjoint, enfant et puis avec la petite maison. Donc, j'ai eu l'idée de partir en voyage, mm-hmm. partir travailler à l'étranger. Puis j'ai demandé à une amie si elle était d'accord. Puis toutes les deux, on a fait des démarches. Puis finalement, on a été acceptés pour travailler en Nouvelle-Zélande.
Donc c'était pour travailler, c'est
oui,
ça?
C'était oui, c'était en ergothérapie. Et mm-hmm. c'est comme ça qu'on a eu la résidence permanente et qu'on est allé travailler à Dunedin, mm-hmm. Là-bas.
Et vous avez découvert ce qu'on appelle le tramping, c'est
oui,
ça?
Oui, tramping, c'est les clubs de tramping, c'est comme le trekking là, qu'on appelle communément, mm-hmm. mais là-bas, ils appellent ça le tramping. Et puis, ben, pour moi, c'était une façon aussi de découvrir le pays, de rencontrer des gens locaux, comme on dit. Mm-hmm, oui. Et puis, on partait les fins de semaine pour faire de la randonnée. C'est magnifique, les montagnes en Nouvelle-Zélande. Là. Fait que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça aussi.
Vous avez eu un coup de foudre pour les montagnes.
Oui, oui, j'ai toujours rêvé aux montagnes, j'ai toujours aimé les montagnes.
Et pourquoi?
Je sais pas, ben c'est que quand tu vas en montagne, tu fais un petit bout, puis mettons il y a un tournant, puis tu peux voir un lac, tu peux voir un paysage à l'horizon, quelque chose mm-hmm. que tu n'aurais pas vu autrement. Et puis la montagne, c'est fascinant parce que quand on va en montagne, tu vois la montagne, je sais pas, elle peut être conique ou elle a une forme. Puis quand tu es dedans, tu oublies ça parce que c'est complètement différent de l'expérience de la montagne. C'est comme, on peut s'y perdre facilement, mais de loin, quand tu la vois, ça a l'air tellement simple, la montagne. Mais quand tu es dedans, c'est un autre paysage.
C'est toujours changeant.
C'est toujours changeant.
Oui, oui.
Et puis ça, je trouve ça fascinant, la montagne, comment c'est changeant, comment quand tu es proche, tu es dedans, que c'est complètement autre chose que tu as de la montagne.
Alors, c'est la forêt, on se sent très bien parmi
oui.
les arbres, parmi la
oui.
faune, la flore.
Les odeurs, les animaux. Tu sais, il y a toujours quelque chose à découvrir. Puis c'est la curiosité. Puis, veux pas, c'est la... Ben, on est en pleine conscience quand on est en forêt parce que souvent, on dit, hey, on parle pas.
Oui.
Parce que... on a entendu quelque chose. Fait que c'est vraiment un endroit reposant.
Mm-hmm. Et à la montagne, on peut toujours aller plus haut, aller plus
oui.
loin.
Toujours plus haut, toujours plus loin, oui.
Vers de nouveaux horizons.
C'est comme, on veut toujours aller au sommet.
Oui, c'est ça, oui. Est-ce qu'il y a des moments forts que vous avez vécu en Nouvelle-Zélande qui vous reviennent à l'esprit, là? Peut-être en ce qui a trait à la marche, mais
oui.
la vie en général.
Ben les Néo-Zélandais, c'est des gens accueillants, c'est des gens qui justement aiment faire beaucoup de choses manuelles. Étant donné que c'est une île qui est isolée, qui est petite, donc ils ont pas beaucoup de manufactures d'usines, c'est qu'ils importent tout.
Mm-hmm, oui.
Donc ils sont très manuels pour réparer les choses de la vie quotidienne. Il y a un côté British assez important aussi, donc
oui.
faire les jardins. Donc c'était beau, c'est beau de les voir travailler les fins de semaine et tout ça. Puis c'est un peuple fier aussi. Fait que là, la Nouvelle-Zélande, ça a été... puis l'océan, c'était magnifique aussi. Mm-hmm. Là, tellement des beaux endroits en Nouvelle-Zélande. T'sais.
Ça a été pour vous un petit paradis, là. Vous avez
oui, vraiment.
Goûté la nature,
oui.
vous avez goûté les montagnes,
oui,
vous
oui.
avez goûté un peuple extraordinaire.
Mm-hmm. Oui, j'ai des beaux souvenirs de la Nouvelle-Zélande, oui.
Et puis, vous êtes allé en Australie.
Oui, on dirait que après la Nouvelle-Zélande, ben, en étant là-bas, l'esprit d'aventure, j'ai découvert que j'avais l'esprit d'aventure. Et puis, il fallait que je parte en Nouvelle-Zélande. Tu sais, en Nouvelle-Zélande, tu rencontres des Australiens, tu rencontres différentes personnes, puis ils disaient, ah, oh, c'est beau l'Australie, tout ça. Puis c'est comme, on dirait que pour moi, la Terre était... à ma disponibilité.
Oh.
C'est vrai, j'ai vu.
Wow.
Et puis, fait que j'allais découvrir l'Australie. C'est ça, je suis arrivée là-bas sans plan spécifique. J'allais là-bas. Puis finalement, bien, j'ai passé 2 ans et demi en Australie parce que j'ai travaillé 6 mois à Sydney. Puis après, bien, je suis partie avec un ami à Perth. Fait qu'on a traversé en auto l'Australie.
Mm-hmm. Et vous avez toujours travaillé en ergothérapie, c'est ça?
Pas à Sydney. Mais après ça, pendant 2 ans, j'ai travaillé comme ergothérapeute en santé mentale à Perth.
Mm-hmm.
Et puis là-bas, j'ai habité avec des Australiens, donc je me suis vraiment bien intégrée. C'est des amis avec qui j'ai encore des contacts. Là.
Mm-hmm.
Oui.
Ça a été un peu difficile de quitter, j'imagine.
Oui, oui, ça a été une grosse décision parce que j'avais vieilli, évidemment. Et puis, je pensais aux enfants. Tu sais, je voulais avoir des enfants. Je voulais me stabiliser. Mais en Australie, je trouvais ça loin. Donc, c'était beaucoup de réflexion. Puis finalement, j'ai décidé de quitter l'Australie. Puis, quand j'ai quitté l'Australie, c'était comme encore là, le Canada était loin. Fait que je me suis dit, je peux pas retourner au Canada sans visiter ce qu'il y a entre. Donc, j'ai décidé de partir en sac à dos, seul, de l'Australie. Puis, j'ai voyagé pendant près d'un an en sac à dos. Mm-hmm. Donc, je suis arrivée à Singapour, montée la Malaisie, etc. Puis, j'ai passé. Mais encore là, les montagnes m'attiraient beaucoup. Et puis, j'avais connu des gens avec qui j'étais dans le club de randonnée là, en Australie, à Perth. Mm-hmm. Puis, je voulais aller les rejoindre au Népal pour faire c'était Annapurna.
Mm-hmm. Oui.
Et puis, finalement, il n'y avait pas Internet dans ce temps-là, donc j'ai pas pu les trouver. Donc, je sais pas comment, mais je suis quand même allée faire l'Annapurna avec des gens que j'ai rencontrés là-bas. On était six. Trois gars, trois filles, puis j'ai fini le voyage de randonnée avec une fille, une Allemande et une Sud-Africaine.
Alors, c'était en 83, 84, oui. Et vous avez fait la Chine, la Birmanie, et il y a l'Inde qui vous attirait, j'imagine,
oui,
comme
oui.
Elle attire tout le monde,
oui.
Et vous avez eu une expérience de méditation intéressante là-bas.
Oui, parce que ça faisait déjà 6-7 mois que je voyageais, et puis... Encore là, vu que j'avais pas d'attache, parce que j'étais partie, ça faisait déjà 5 ans, j'avais pas d'emploi, j'avais pas d'attache particulier, donc il y avait beaucoup de questionnements. Et puis j'ai décidé de me déposer, puis j'ai trouvé un endroit pour faire de la méditation, et c'était le Vipassana. Mm-hmm. Et à ce moment-là, j'ai fait un 10 jours de méditation, c'était mon introduction à la méditation.
D'accord. Est-ce que c'était la méditation en marchant ou
non,
dans un centre?
Non, c'était la méditation dans un centre, méditation assise, mais autour, il y avait des endroits où on pouvait marcher. Mm-hmm. Et puis, ça a été très, très révélateur. Ça a été une expérience extraordinaire.
Vous êtes vraiment une aventurière.
Je pensais pas, mais oui.
Parce que là, vous êtes revenu au pays, c'est ça?
Oui.
Par la suite, oui.
Après cette période de voyage, je suis allée au Japon parce que je connaissais des Australiens qui travaillaient au Japon, qui enseignaient l'anglais là-bas. Puis j'ai des amis qui m'ont accueilli. Puis finalement, je me suis trouvée un travail de prof de français dans une école privée de langue, mm-hmm, à Tokyo.
Oui.
Puis finalement, je suis restée au Japon. Je voulais apprendre le shiatsu. Puis j'ai rencontré un Japonais qui étudiait l'acupuncture. Mm-hmm. Et puis finalement, j'ai eu le shiatsu, mais j'ai aussi resté avec le Japonais, puis on s'est mariés au Japon.
Ah, oh, c'est formidable! quelle aventure!
Puis on est venu au Canada vivre au Canada par la suite, en 86.
Et vous êtes retournée au Japon en 2018 pour marcher cette fois.
Oui, je suis allée marcher, faire le Shikoku.
Ah oui, ça c'est le pèlerinage,
oui,
où on peut visiter 88 temples.
Exactement,
c'est ça?
Oui. Donc je ne l'ai pas fait au complet parce que, étant donné mon travail, j'avais comme 2 semaines, un peu plus là, pour faire le voyage. Donc après 2 semaines, je suis arrêtée, mais ça a été vraiment une belle expérience, c'était magnifique. Et puis, étant donné que je pouvais me débrouiller en japonais, ça rendait le voyage plus facile aussi comme étrangère. Là.
Et vous l'aviez fait seule?
Oui.
Oui?
Oui, oui, j'ai fait ça seule, oui.
Oui. Nous avions à l'émission, il n'y a pas tellement longtemps, Mathieu Théoret qui nous a raconté son pèlerinage de Shikoku, justement. Il a adoré. Qu'est-ce que vous retenez vous-même de cette expérience assez unique, dans le fond?
Oui, bien c'est... Je dirais la beauté des temples, le rituel aussi. Quand tu arrives à chaque temple, tu fais un rituel. Je trouve ça important, tu sais, de prendre le temps d'arriver. À chaque temple que tu arrives, c'est comme une invitation. Chaque temple est différent aussi. Mm-hmm. Et puis, je trouve ça intéressant parce que tu as ton cahier là-bas, puis ils font la calligraphie à chaque temple que tu visites. Ça aussi, c'est très particulier. C'est comme si c'est un moment... je sais pas, un moment de méditation, je trouve. Et puis, tu pars de chaque temple, puis tu as un souvenir de chaque endroit. Puis quand tu regardes ton cahier, c'est comme, évidemment, tu comprends pas nécessairement la calligraphie, mais c'est des souvenirs, c'est des moments, des beaux moments. Puis il y a l'océan aussi, tu sais, par moments on borde de l'océan. Mm-hmm. Puis les gens étaient très accueillants aussi, puis curieux.
Mm-hmm. Mm. Oui.
Puis fait que j'avais marché aussi avec des fois avec les Japonais, puis qui se questionnaient, en tout cas, un entre autres, il prenait sa retraite et puis il se questionnait par rapport à son couple et tout ça. Puis j'étais contente de pouvoir partager ça en japonais.
Ben justement, oui. Oui,
oui, oui. Ça fait que c'est vraiment touchant.
Vous avez établi une belle relation, oui. Déjà assez courte, mais quand même profonde.
Oui, oui, hein? Juste ouais. La marche, puis une autre fois, c'est avec une Japonaise. Et puis, fait que c'est ça. C'était, mm-hmm. C'était dans l'ouverture. Hein, quand tu fais des voyages comme ça, la marche, t'es dans l'ouverture.
Mm-hmm. Et c'est ce que vous faisiez autant en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Inde, en Asie,
bien,
un peu
quand
partout.
Tu fais des marches ben, comme le Shikoku ou Compostelle, l'expérience est différente parce que là, tu es vraiment dans le mode marche et tu es à la découverte, à l'ouverture, comme je dis. Fait que c'est différent que de marcher, mettons, en montagne pour faire une trail.
Mm-hmm, oui.
Le contexte est différent. Mais mm-hmm. Les deux sont intéressants, mais le contexte est différent. Donc, mm-hmm. des longues randonnées, ça amène plus de profondeur et puis de...
Alors, vous avez vécu à quelques reprises, là, ce sentiment, cette émotion de revenir dans le quotidien. Est-ce que c'est difficile?
Bien, si on parle de retour à la maison, mettons, si je parle de mon... Quand je suis partie vivre à l'étranger pendant 7 ans, mm-hmm. au total, c'est certain que revenir à Montréal... Et puis, avec un conjoint, ça a été un défi parce que ça faisait longtemps. Moi-même, il fallait que je me réadapte, me réinsère dans la culture ici. Et puis, arriver avec une personne dont ce n'était pas sa culture. Donc, il y a quand même eu beaucoup de défis, mm-hmm. certains plus faciles que d'autres. Et puis aussi, j'étais enceinte quand je suis arrivée. Donc, j'ai accouché quelques mois après mon arrivée. Fait qu'il y avait beaucoup de choses en même temps.
Oui.
Mais, fait que oui, de retour, quand on part pour une longue période, puis même le voyage, quand on fait Compostelle pour des marcheurs, eh bien, avec Anne Saint-Hilaire, il y a un atelier qu'on avait commencé à faire, c'était le retour de Compostelle.
Mm-hmm.
Et ce retour-là permettait aux gens intéressés de venir partager leur expérience du retour.
Mm-hmm, oui.
Parce que le retour, des fois, tu prépares ton voyage, mais tu prépares pas nécessairement ton retour de voyage.
Oui, c'est ça. Alors, nous en reparlerons un peu plus tard dans l'émission, mais j'aimerais que vous nous parliez aussi de votre expérience, parce que quand vous êtes parti, vous êtes resté 7 ans et un peu plus à l'étranger, c'était la grande liberté.
Oui. J'irais liberté, mais en même temps, ça donne un sens au mot liberté. Oui, liberté, mais aussi de voir que la liberté, on pourrait en parler longtemps, je pense, mais mm-hmm. c'est quoi la liberté? C'est la liberté, oui, de choisir, mais en même temps, de vouloir faire les bons choix.
Mm-hmm. Oui.
Et puis, des fois, ça peut devenir compliqué. Ça peut être, je dirais, anxiogène.
Est-ce que ça l'était pour vous?
Ça l'était par moment.
Et à quel moment?
Bien, plus au moment où je terminais le voyage en Asie, mon sac à dos. Et puis là, c'était comme, bien, il faut que je me dépose, puis je vais continuer ma vie normale.
Mm-hmm.
Et puis à ce moment-là, bien, il y avait beaucoup de questionnements. C'est une des raisons pour laquelle j'étais allée faire de la méditation.
Ah oui, oui.
Pour prendre le temps de m'arrêter, j'avais besoin de m'arrêter. Parce que cette préoccupation-là était présente,
mm-hmm.
de me dire, qu'est-ce que je vais faire?
Grande question.
Où est-ce que je m'en vais? Ouais. Qu'est-ce que je veux faire? Où est-ce que je veux vivre? Tu sais, c'était... Mm-hmm.
Oui. Ça, c'était en Inde, hein? C'est ça?
Oui,
C'est plutôt à ce moment-là.
Mais c'était dans le processus du voyage, là.
Oui,
oui,
ouais.
Oui,
oui. Ouais. Alors, au retour, ça a été un choc. Vous aviez changé beaucoup, évidemment. Les gens autour de vous avaient changé.
Oui,
beaucoup également.
Oui. Puis quand tu reviens de voyage, ton expérience, il y a une certaine, fierté d'avoir fait cette expérience-là, une certaine satisfaction.
Oui.
Puis de la partager, bien, c'est des fois les gens sont intéressés, mais ils ont leur quotidien. Donc ça, c'est plus, comme un choc aussi de voir jusqu'où, de comprendre leur réalité, de se mettre à leur place. C'est parce que en voyageant seul aussi, tu es très imprégné de ce que tu fais.
Oui. Même parce qu'on vit intensément.
Exactement. Alors que là, tu revenais, puis comme on dit, sur le plancher des vaches, là.
Oui.
Et puis ça fait réaliser d'autres dimensions, si on veut.
Bien, justement, le plancher des vaches, vous me l'expliquiez. C'est quand vous êtes revenu à la ferme, vous comptiez vos expériences, vous racontiez vos expériences plutôt. Et c'est là, il y a eu...
Oui. Ça, c'était une amie qui était une voisine, une amie d'enfance. Et puis, elle était avec son conjoint et cultivateur. Puis, j'étais allée les visiter pour leur montrer des photos, parler de ce que j'avais fait les dernières années et tout ça. Et puis, pendant que je montrais mes photos, il est parti, il est allé chercher son album de photos de vaches pour me montrer les meilleures, celles qui donnaient le plus de lait, puis tout ça. Donc, ça m'a comme donné un choc. Puis je comprenais pas, mais c'était vraiment une belle expérience après un certain temps, avec le recul, pour comprendre ce que j'expliquais là, juste avant.
Oui,
de voir la réalité des gens, puis de me mettre à leur place, de dire, OK, moi j'ai fait ça, mais la vie a constitué pour chaque personne.
Parce que c'est le choc des réalités.
Exactement.
Là, c'est ça?
Oui, ça a été... aujourd'hui, j'en ris, là, mais au début, je ne comprenais pas tout de suite.
Oui. Ça me fait penser un peu, et je le mentionne à quelques reprises, notre ami Bernard Olivier, qui a écrit un livre, La vie commence à 60 ans. Il a traversé de la France à la Chine tout au long de la route de la soie. Et à son retour, il a tenté de raconter son épopée. Et puis, il n'y a personne qui était vraiment intéressé au-delà de 5 ou 10 minutes, justement à cause de ce choc des réalités. Là, chacun a son quotidien, n'est-ce pas?
Tout à fait. Oui. Puis, mais pour moi, je trouve que ça fait partie du chemin, ce retour-là, cet apprentissage.
Mm-hmm.
Parce que c'est intense, tout ce qui se passe sur le chemin.
Oui.
Et puis, tu ne peux pas le décrire en 5 minutes.
Surtout si vous avez vécu à l'extérieur pendant toutes ces années.
Exactement, mais je pense qu'il faut que ce soit fait dans un contexte où les gens sont là pour écouter, justement.
Et comment on crée ce contexte?
Bien, si je pense à Bernard Olivier, bien, en faisant des rencontres avec des gens qui veulent entendre parler de ça, qui sont là pour cette raison-là.
Mm-hmm. Alors, vous étiez et vous êtes la personne toute désignée pour animer des ateliers sur le sujet et participer aussi à cette activité qui s'appelle Méditation Verdun.
Oui.
Et nous allons prendre une courte pause musicale avant d'en parler.
Parfait.
Nous sommes en compagnie de Noëlla Groulot. Noëlla, nous parlons de cette activité à laquelle vous participez et à laquelle vous avez été invitée par notre bonne amie Anne Saint-Hilaire du Centre La Tienda. C'est un atelier justement sur les personnes qui reviennent de longues randonnées, de Compostelle ou même de séjours ailleurs et qui ressentent ces sentiments, ces émotions qui sont parfois un peu difficiles suite à ce retour. Alors, on parle de cette expérience de l'atelier. Quel est l'objectif, quel est le but, en fait, de cet atelier?
Mm-hmm. Bien, le but de l'atelier, c'est vraiment d'offrir un espace aux personnes qui reviennent de leur expérience sur le chemin de Compostelle ou un autre chemin, mais qui sont partis pour une certaine période de marche. de pouvoir parler de leur retour, de voir comment ça se passe. Puis on s'est rendu compte pendant les ateliers qu'on a fait que pour certaines personnes, le retour est très difficile.
Et pourquoi il est difficile?
C'est ça qu'on discute pendant l'atelier.
Oui.
Parce que parfois, quand ils partent, dépendamment, chaque personne quitte pour différentes raisons quand ils vont marcher. Mais parfois, c'est parce que, ils ont décidé de quitter leur travail, ils avaient des conflits, ils avaient beaucoup de questionnements personnels. Et puis, je reste un peu, je ne veux pas être... prendre pour acquis là, c'est leur raison, mais ça peut être un peu un évitement de dire, bien là, je pars, je réglerai ça plus tard.
Oui.
Puis de partir, de dire, bon, enfin, là, je pars, je suis contente, je vais partir au content. Et puis le retour, bien, ils doivent faire face à la même réalité.
On n'a rien réglé en route.
Donc, le chemin a pu être très, très intéressant et tout ça, mais il reste que le retour, bien, ça peut être brutal parfois. Si on revient, puis si on n'a pas de travail ou si on se sent plus isolé ou qu'il y a des difficultés quelconques. Donc, c'est quand on revient, bien, ça peut être difficile de vivre tout ça.
Mm-hmm.
Et puis, en plus d'avoir vécu une expérience des fois extraordinaire sur le chemin, donc le choc est encore plus grand.
Mm-hmm.
Parce que on revient, c'est comme on retombe, comme on dit, les deux pieds sur terre.
Oui.
Et puis, si on ne se sent pas accompagné, mais des fois, ça peut être très, très difficile.
Comment ça se manifeste au jour le jour, cet inconfort?
Bien, ça peut être plus l'isolement.
Mm-hmm.
Ça peut être de vouloir fermer les rideaux puis de dire, j'ai pas envie de rencontrer personne, les gens comprennent pas, je sais plus quoi faire. T'sais, des fois, ça peut vraiment... Dans le jargon, on va appeler ça un trouble d'adaptation.
Mm-hmm.
Parce que c'est comme de s'adapter à cette nouvelle situation du retour.
Oui.
Ils n'étaient pas préparés à ça. Donc, ils ne savent pas comment s'accommoder, comment trouver les ressources ou des stratégies pour bien vivre le retour.
Et plus le trajet est long, comme Compostelle, par exemple, plus le choc des réalités est profond.
Ça peut être un plus grand choc. Donc, c'est l'atelier permettait aussi aux personnes qui voulaient partir, qui se préparaient à partir, de participer. Donc, c'était ouvert à tout le monde.
Ah bon, oui.
Pour comprendre comment ça peut se passer, le retour, puis préparer le retour.
Mm-hmm.
Donc,
oui.
On prépare le départ, mais préparer le retour... aussi un espace qui peut aider à penser à son retour.
Et comment ça se déroule dans cet atelier?
Bien, il y a une période où on va... Bien, moi, je vais beaucoup inviter les gens à s'exprimer. Et puis, je vais aussi parler de, justement, les retours quand on vit des changements. Qu'est-ce que ça peut impliquer? Que c'est normal chez chaque personne. Et puis, comment on peut les vivre, ces changements-là, pour les accueillir plutôt que de les subir.
Mm-hmm, oui. Et le partage, il est intense? Il est très dynamique?
Le partage, oui, c'est très intéressant parce que les gens se retrouvent avec d'autres personnes qui les comprennent.
Qui ont vécu la même.
Exactement.
Oui.
Donc, ils se sentent supportés. Ils disent, moi, c'est exactement ça. Oui, je te comprends tellement. Puis, fait qu'il y a beaucoup, les gens, ça s'anime. Et puis même, ils vont créer, je pense, des amitiés. Là. Évidemment, moi, je ne les ai pas suivis par la suite. Mais
mm-hmm.
pour se sentir supportés sur tout ça, c'est la solitude qui peut être lourde.
Oui, parce qu'on disait, il y a quelques instants, quelques minutes, que parfois, notre famille, nos amis ne nous comprennent pas, justement,
exactement.
Parce qu'ils n'ont pas vécu la même expérience.
Tout à fait,
ouais.
Tout à fait. Puis même si on leur en parle, puis on peut expliquer, j'ai vu ça, j'ai fait ça va, bien, eux, ils vont t'entendre, peut-être une soirée,
mm-hmm.
mais après, si tu reviens toujours avec ton expérience de Compostelle ou autre, ben ils vont dire reviens-en là, c'est assez là.
Mm-hmm.
Ils vont faire, peut-être qu'ils diront pas comme ça, mais ils vont te faire comprendre que c'est ce qu'ils veulent dire.
Oui, oui.
Oui.
Et est-ce qu'il y a une suite à tout ça? Est-ce qu'il y a un suivi qui est fait auprès des participants?
Non, non. Moi, j'ai vite, quand j'étais ergothérapeute. Maintenant, je suis à la retraite là, depuis le 1er avril. C'est tout nouveau.
C'est tout nouveau,
oui. Oui, mais je pouvais, j'invitais les gens qui voulaient me contacter pour que je leur donne des ressources ou les aider si ça peut, leur être utile. Là. Mm-hmm. Donc, pour ne pas les laisser comme ça en plan, là,
c'est
avec
ça.
Pas de sans ressources.
Mais il y a certains conseils, j'imagine, que vous prodiguez pour les aider dans leur cheminement vers ce nouveau...
Exactement,
nouveau,
oui. Mais... C'était de faire une routine, d'avoir, reprendre une routine, de continuer à marcher, parce que la marche, au niveau hormonal, au niveau des hormones du bonheur, donc ça c'est important aussi. Mm-hmm. Donc, quand tu marches toute la journée, à tous les jours, bien si tu cesses subitement de marcher, bien tout ça c'est un manque aussi au niveau physiologique. Donc les encourager de continuer à marcher.
Mais justement, on parle de marche et cette autre activité à laquelle vous participez s'appelle méditation Verdun.
Oui.
Alors, c'est un peu le jumelage de la marche et de la méditation,
bien,
n'est-ce
on
pas?
On fait la marche dans la méditation, on le fait des fois à l'intérieur de l'édifice où on le fait, on fait ça dans un café.
Ah oui.
Mais on le fait pas nécessairement à l'extérieur, c'est plus une méditation assise, mais on va parler de la marche.
Et de quelle façon les bienfaits de la marche?
Les bienfaits de la marche. Et puis, plusieurs personnes qui viennent participer à la méditation vont marcher aussi. Ils vont dire, je vais aller au bord du fleuve parce que Verdun, c'est au bord du fleuve. Donc, on a des beaux endroits pour marcher. Ils sont très, très intéressants. Mm-hmm. Donc, c'est ça. On va élaborer aussi sur la méditation. Mais c'est pleine conscience, donc c'est au quotidien. C'est pas juste pendant que tu es assis à méditer, mais c'est dans les activités quotidiennes, dans la marche, dans tout ce qu'on peut faire au quotidien.
Mm-hmm. Oui, Verdun, c'est un endroit magnifique pour ça. Vous avez le fleuve. Vous avez, c'est un endroit quand même assez tranquille.
Oui. Vraiment. Vraiment.
Alors, on parlait de marche, on parlait de méditation. Et il y a une autre expérience que vous avez vécue et je l'ai retenue un tout petit peu pour vraiment concentrer sur cette marche, cette visite du village des pruniers.
Oui, c'est que la méditation, comme j'ai mentionné, je l'ai fait la première fois en Inde, c'était dans les années 80, en 84. Et par la suite, c'était pas quelque chose qui était populaire, la méditation. C'était un peu, dans le temps, on disait hippie, ou c'était un peu...
C'était les premiers balbutiements.
Oui, c'était un peu flyé, là.
Oui, tout à fait.
Donc, quand j'étais revenue au Québec pour travailler, ben je parlais pas de méditation dans mon travail parce que ça avait pas rapport, comme on dit.
Quelle est cette personne étrange?
C'est ça. Et je voulais vraiment m'en tenir mon côté professionnel. Mais par la suite, ça a été introduit. Et puis, j'avais suivi des formations de méditation. C'était le MBSR, le Mindfulness Based Stress Reduction, avec un psychologue de McGill. Et donc, à ce moment-là, j'ai vraiment plus intégré la méditation d'une certaine façon dans mon travail comme ergothérapeute.
Oui.
Et puis, méditation Verdun, c'est suite à ça que je trouvais ça intéressant d'offrir un espace de méditation aux personnes de Verdun.
Mm-hmm. Et ce village des pruniers dont on parlait tout à l'heure, vous l'avez visité, c'est le domaine de Thich Nhat Hanh. C'est lui qui l'a fondé, ce moine bouddhiste vietnamien qui a été connu pendant la guerre de 1968 au Vietnam, qui a fait des marches lui-même aux États-Unis et tout. Et c'est un grand symbole de la méditation, du bouddhisme, de la paix dans le monde et tout. Et vous avez eu le privilège ou la bonne initiative de visiter le village des Pruniers. Comment c'était? Décrivez-nous cet endroit.
Oui. Le village des Pruniers, c'est... tu arrives par train et puis après, ils ont les sœurs, en tout cas, dans mon cas, c'était ça, ils viennent te chercher.
D'abord, on dit c'est en France quand même.
Dans le coin de la Gironde.
Où Thich Nhat Hanh s'était réfugié.
Oui,
là,
il s'est établi là-bas.
C'est ça,
Et puis, donc, ils viennent te chercher avec leur camionnette. Et puis là, ils t'installent. Tu as une chambre, tu peux être seul, on était deux. Des petites chambres très simples. Et puis, pendant la journée, c'est vraiment pleine conscience. Donc, on va préparer, participer à des activités quotidiennes avec les sœurs. Nous, on était avec les sœurs. Donc, il y a 3 ou 4 pavillons. Il y en a pour les hommes et puis il y en a pour les femmes. Évidemment, nous, j'étais avec les femmes. Et puis, donc, à chaque jour, on fait des tâches. Ça peut être dans la cuisine, ça peut être entretenir le terrain, nettoyer les espaces, jardiner. Et puis, c'est de faire ça en pleine conscience.
Oui.
Puis, il y avait évidemment les méditations le matin. Donc, on allait méditer tôt le matin. Après ça, c'était le déjeuner où les repas étaient tous en silence. Et puis, il y avait des méditations aussi pendant certains moments de la journée. Donc, les journées étaient très bien structurées. Et puis, c'est ça. Et puis, on allait marcher. Bien, Thich Nhat Hanh était présent à certains moments pendant le temps que j'étais là. Et puis, on a fait des marches avec lui. Et ça a été très, très spécial, je dirais, très intéressant. Et puis, il a fait donner des conférences aussi. Il n'est pas toujours là, mais là, maintenant, il est décédé. Mais comme j'ai dit, j'ai eu le privilège qu'il soit là puis qu'il donne des conférences pendant mon séjour. C'est une personne qui est très, très simple. C'est quand il parle, qu'il donne des conférences, c'est comme s'il parle à une personne. Et puis, c'est très paisible, très, très inspirant.
Est-ce que vous avez marché avec lui?
Oui, c'est ça.
Et comment on sent? Est-ce qu'il y a une aura qui se propage?
C'est difficile à décrire parce que c'est comme... j'étais pas nécessairement à côté près de lui, là, parce que lui, il marche en avant, il est accompagné, puis là, des gens suivent, mais c'est ce qu'on appelle le sangha, quand tu es avec un groupe de méditants, tu as cette, cette sensation qui est transmise parmi les participants, je dirais, qui est présente. T'sais, on est là pour la même raison, ou on est intéressé d'être là, c'est un choix d'être là. Donc, tout ça, ça se ressent quand on est en présence là, d'une activité qu'on faisait avec Thich Nhat Hanh.
Alors, vous vous sentiez très près, j'imagine,
oui,
des
oui.
autres et de Thich Nhat Hanh.
Oui, et privilégié d'être là aussi. Oui, ça a été un moment très privilégié. Cette semaine-là, ça a été une semaine très particulière.
Dans votre vie, j'imagine.
Oui.
Noëlla, on a parlé beaucoup de marche, de méditation, de retour après de longs trajets. J'aimerais aussi parler de votre autre passion, le vélo.
Oui!
Parce qu'après la marche, il y a le vélo. La marche continue, évidemment,
mais
il y a le vélo que vous avez découvert.
Oui, j'ai toujours aimé faire du vélo. Du vélo comme ça, me promener dans la ville. Et puis, même quand j'étais à l'étranger, comme en Australie, j'avais mon vélo à Perth et tout ça. Puis quand ça a été les dernières années, il y a peut-être 5-6 ans, après la pandémie, en 2021, que j'ai des amis avec qui je fais de la course à pied. Et puis, eux, ils faisaient du vélo le dimanche, souvent, en été. Puis, je disais, ça a l'air intéressant. Tu sais, d'un coup, puis là, je me suis acheté un vélo, puis j'ai commencé à en faire plus sérieusement. Puis, ils faisaient des voyages de vélo, donc j'ai décidé de faire un premier voyage de vélo avec eux.
Des voyages organisés?
C'était au Québec, dépendamment
au Québec,
avec
oui.
qui, là, les types de voyages. Et puis, présentement, ça fait 3 voyages de vélo que je fais à l'étranger.
Et vous avez débordé sur l'Italie, qui est peut-être votre petit coin du monde préféré.
Je ne sais pas si c'est le préféré. Mais pour le vélo, c'est vraiment extraordinaire. Là.
Oui.
Fait que j'ai fait 2 voyages à vélo en Italie, et puis un autre en Crète.
Oui.
Et puis là, j'en vais en faire un autre à l'automne en Espagne.
Et il y en a un dont vous m'avez parlé, le col du Stelvio en Italie. Ça, c'est vraiment remarquable. Il faut absolument nous en parler.
Bien, c'est que ce voyage-là, c'était dans les Alpes italiennes. Et puis, je me disais, c'est une folie de m'en aller là. Je suis à la retraite, donc j'ai pas 50 ans. Et puis, ça fait pas très longtemps que je faisais du vélo non plus, là, du vélo de longue distance, vélo de route, comme je fais. Donc, j'avais beaucoup, beaucoup d'appréhension pour ce voyage-là, parce que je savais que de monter des cols, que ce soit le Stelvio ou d'autres, parce que c'est ça, c'est de monter
des
cols. C'est très demandant.
Très demandant.
Donc, oui. Si pendant 20 km, tu montes l'école, tu fais 30, 40...
C'est les lacets,
qui montent. Oui, oui, mais ça monte tout le temps. Là, même.
Ça monte tout le
temps. Mais j'étais très contente. J'étais évidemment avec des amis, puis c'est un groupe, d'avoir réussi. Et puis... les belles découvertes, c'était encore là, c'est les montagnes. Donc, c'était magnifique, les paysages. J'ai des images extraordinaires dans ma tête là, de ce voyage-là.
Toujours la montagne.
La montagne, oui.
Oui, oui. Ah, c'est absolument formidable. Alors, vous avez trois passions, la course, le vélo, la marche. Il y a une passion préférée ou vous aimez les trois et pour différentes raisons, peut-être?
La randonnée, j'aime beaucoup la randonnée. C'est paisible. Et tu marches tranquillement. C'est ça. T'es en pleine conscience, souvent, t'es tranquille. Ben, souvent, je le fais avec d'autres personnes aussi. Mais la marche, c'est vraiment, c'est vraiment bien. Faire une belle randonnée, là, une journée, oui. Une belle randonnée. Là. Avant, j'allais dans les Adirondacks, mais maintenant... j'évite d'aller de traverser la frontière du sud.
Ah, ben il y a ça. Oui.
Mais... Oui. Mais j'aime les trois. Je pense que c'est d'être bien accompagné aussi. C'est les gens avec qui on fait les activités. Mm-hmm. C'est très agréable. Oui, c'est... Je reste... Toutes ces activités-là, c'est la santé. Mm-hmm. C'est... ça aide à garder un équilibre.
Oui.
Comme je dis, moi, c'est mes antidépresseurs.
Naturel.
Oui. Mm-hmm. Oui. Et puis... puis dans mon travail, ben j'encourage beaucoup... J'encourageais, là, mais les gens, les clients avec qui que j'accompagnais à bouger, à faire des activités, même si c'était 5 minutes, mm-hmm. d'aller chercher de l'oxygène à l'extérieur, de se sentir vivant.
Mm-hmm.
Ouais.
Alors, si on résumait ce que vous apporte la marche, c'est ce que vous venez de décrire. Est-ce qu'il y a autre chose, là, une espèce de conclusion, un mot de la fin sur les bienfaits de la marche?
Bien, j'ai envie de dire, bien, sortez.
Allez marcher.
C'est gratuit. C'est disponible pour tout le monde. Et puis, bien, ici, on est très chanceux aussi quand on voyage, qu'on voit les gens dans quelles conditions ils vivent. Comment est-ce qu'on est privilégié ici?
Mm-hmm. Au Canada ou au Québec.
D'être en sécurité.
Oui.
Et d'avoir tous ces espaces, les parcs.
Une belle nature.
Une belle nature. Donc, profitez-en.
Et des gens intéressants.
Oui, oui, vraiment.
Et à Verdun, vous avez le beau fleuve.
Le beau fleuve.
Les sentiers.
Oui, oui. Donc, on est très privilégiés.
Nous sommes bénis.
Vraiment, vraiment.
Alors, Noëlla, on peut vous joindre si quelqu'un voudrait vous poser quelques questions, peut-être?
Ils peuvent me rejoindre par courriel.
Alors, nous allons mettre votre adresse courriel sur le site.
Merci.
C'est bon. Alors, Noëlla, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, de nous avoir prodiguer quelques conseils pour les retours parfois difficiles de ces longues randonnées, les Compostelles et ainsi de suite, et d'avoir partagé votre amour de la marche et de la méditation. Merci beaucoup.
Merci de l'invitation. Merci.
Bonjour Michel et bienvenue à cette dernière chronique des trouvailles du Serein Pèlerin pour notre 5e saison.
Eh bien Denis, déjà une 5e saison qui tire à sa fin.
Alors Michel, que nous réservez-vous comme dernière trouvaille?
Ben, je vais un peu boucler la boucle que j'ai ouverte avec la première chronique de cette 5e saison où je vous avais parlé des escaliers de la ville de Québec et de comment on peut y marcher de manière artistique. Alors, je vous en reparle aujourd'hui, mais autour de la manière athlétique de marcher dans des escaliers.
Une manière athlétique. Intriguant, Michel. Mais rappelez-nous d'abord pourquoi le lien entre marche et escalier vous interpelle autant.
Bien, quand on vit à Québec puis qu'on marche, on n'a pas tellement le choix. Hein. Comme vous savez, Québec, c'est une espèce d'éperon rocheux assez étendu, en fait, qui est bordé au nord par le Saint-Laurent, puis au sud par la vallée de la rivière Saint-Charles et puis de la rivière Lorette et Cap-Rouge. Là. Donc, entre la terrasse du Frein et Cap-Rouge, bien, c'est ce grand éperon rocheux avec des caps des deux côtés. On n'a pas le choix. Il y a des escaliers. Et donc... Les escaliers qui sont surtout, finalement, sur la rive nord, du côté nord, puis dans la partie de la vieille ville. Du côté sud, il y en a un peu moins. Mais puis quand on s'en va un peu plus vers, pour les gens qui connaissent Québec, un peu plus Sillery, Sainte-Foy-Cap-Rouge, là, il y a presque plus d'escaliers à aller jusqu'au pont, en fait. Puis à partir du pont de Québec, là, il y en a encore toute une nouvelle série parce qu'il y a un sentier qui s'appelle le Sentier des Grèves qui part du pont, des ponts, en fait, et puis qui suit le cap jusqu'à Cap-Rouge, mais qui monte et descend plusieurs fois avec plusieurs escaliers, là aussi. Donc, il y a vraiment des escaliers un peu tout le tour. Il y a certains de ces escaliers-là qui sont fameux pour des raisons historiques. Par exemple, le fameux escalier Casse-Cou qui arrive dans le Petit Champlain, parce que c'était le premier escalier qui part de la côte de la montagne et puis qui descend. Là, donc, c'est un très, très vieil emplacement d'escalier. Il y a le fameux escalier de la Pente douce dont on a tous entendu parler à cause de Roger Lemelin. Il est fermé, là, par exemple. Il a été complètement démoli puis ils sont en train de le reconstruire au complet.
Ah oui?
Parce qu'il était rendu dangereux. Là. Alors, c'est l'escalier des Franciscains, en fait, qui s'appelle, là aussi. Puis, là, il est fermé. Et puis, bien sûr, le fameux escalier du Cap-Blanc. On a descendu ensemble, mais on ne l'a jamais monté ensemble. Il y a 398 marches. C'est le plus long des escaliers.
Alors, la prochaine fois.
Oui, la prochaine fois. Il y a des raisons architecturales. Il y a certains escaliers qui sont particulièrement design, avec des choses métalliques. Puis, il y a aussi des raisons touristiques pour lesquels des escaliers sont intéressants. Donc, vraiment, une ville où on n'a pas le choix. Quand on marche, il faut monter puis descendre. Et puis, ce qui est intriguant, c'est que depuis 12-15 ans, il y a une nouvelle vocation qui est plus une vocation que je dirais athlétique. Les gens se servent des escaliers pour se mettre en forme. Donc, on a vu ça. Par exemple, on a eu des gens qu'on a eu ici, Richard Corriveau et sa conjointe, dans le fond, qui disent qu'eux autres, ils s'entraînent à l'escalier Joffre à côté de chez eux. Et moi, ce que j'ai vu depuis les années où j'habite tout près de l'escalier du Cap-Blanc, l'hiver, il était complètement fermé, il n'y a pas si longtemps. Puis maintenant, il est ouvert à l'année. Puis maintenant, c'est presque rendu difficile d'y circuler simplement pour monter puis descendre parce que...
Il y a
du monde, c'est plein de monde qui s'entraîne. Puis les gens, quand ils s'entraînent, souvent, bien, toi, si tu montes tranquillement, ils te dépassent, bien, ils fatiguent. Là. Puis il y en a souvent, quand ils s'entraînent en montant et en descendant. Ils montent à peu près une dizaine de marches, ils redescendent. Il y a différentes techniques d'entraînement, mais c'est certain que l'escalier, maintenant, sert beaucoup, beaucoup à ça. Et puis, c'est vraiment une utilisation, donc... athlétique des escaliers pour une activité physique plus intense.
Oui, effectivement, Michel, marcher en montant ou descendant fait travailler davantage le corps que, évidemment, marcher sur le plat. D'ailleurs, certains organisateurs d'événements l'ont bien compris.
Tout à fait. Il y a toutes sortes de monde, dans le fond, qui se sert maintenant des escaliers de cette façon-là. L'Association du Québec à Compostelle de la région de Québec, par exemple, propose à ses membres toujours des activités d'entraînement, des marches qui se passent différentes à différents endroits. Ils proposent, entre autres, une marche à travers plusieurs escaliers de la ville. Certains clubs de marche font ça aussi. Mais c'est surtout du défi des escaliers dont je voudrais vous parler aujourd'hui.
Alors, on vous écoute.
En fait, ce défi-là, il existe depuis 2009. Il est organisé par un organisme qui s'appelle Je cours Québec, qui est un sous-organisme de notre grand organisateur d'événements sportifs à Québec, qui s'appelle GESTEV, pour gestion d'événements. C'est eux qui organisent le marathon de Québec, le demi-marathon de Lévis, la course de trail de coureurs des bois de Duchesnay, des événements de vélo, de ski. Donc, c'est le grand organisateur d'événements. C'est toujours au début de l'été, cet événement-là. En 2026, celui qui vient, ça va être le 20 juin. Et il y a plusieurs épreuves, en fait. Il y a 7 épreuves dans la quarantaine d'escaliers qu'ils utilisent. En fait, ce qui est intriguant, c'est qu'ils utilisent à peu près tous les escaliers qui vont du bas en haut des caps, mais plein d'autres petits escaliers aussi, entre deux. Des fois, des escaliers, ils montent des marches d'église ou des choses comme
ça.
Mais au total, dans le fond, ça fait une quarantaine d'escaliers. Les quatre épreuves, il y a quatre épreuves, les sept épreuves, il y a quatre épreuves de course qui font 19, 14, 9 et 4 kilomètres. Il y a deux épreuves de marche qui font 9 et 4 kilomètres. Puis il y a une épreuve pour les jeunes qui fait de 2 kilomètres. Alors, en 2025, la dernière année où ça s'est passé, il y a eu 2200 personnes qui se sont inscrites aux différentes épreuves. Donc, c'est comme une assez grosse affaire. Et puis, pour des frais d'inscription qui varient entre 60 et 110 piastres. Et en 2025, juste pour vous donner une idée, le 19 km, il y avait 37 escaliers, 2468 marches. Le 14 km, 33 escaliers, 2404 marches. Le 9 km, 25 escaliers, 1367. Mais comme le 4 km, 13 escaliers, 520, ils n'ont pas l'escalier du Cap Blanc dans ce parcours-là. Mm-hmm. Et dans le fond, juste pour vous donner une idée, je vais vous lire un peu ce qu'on peut retrouver comme indication quand on s'inscrit à ce genre de parcours. Et si ça vous tente de le faire, vous pouvez aller trouver le site et trouver les indications et le faire par vous-même.
Parfait,
là, ça commence sur l'avenue Honoré-Mercier. Là, ça dit « à droite sur la rue Dauphine, à droite sur la rue d'Auteuil, prendre à droite vers la porte Kent. » Et là, « descendre l'escalier de la porte Kent. » Là, c'est marqué 70 marches. Alors, à chaque fois qu'il y a un escalier, ça donne le nombre de marches. « Légèrement à gauche, prendre le sentier vers la porte Saint-Jean, descendre l'escalier de la porte Saint-Jean, 83 marches. » Après ça, à droite dans le parc d'artillerie, monter l'escalier du parc d'artillerie, 10 marches. Ensuite de ça, à gauche sur la rue Saint-Jean, etc., monter l'escalier de la Maison de la littérature. Ça, c'est vraiment, on n'est pas, en haut, en bas du cap, là. 24 marches. Un peu plus loin, descendre l'escalier du jardin de l'Hôtel de Ville, 16 marches. Descendre les escaliers de l'Hôtel de Ville, 30 marches, etc. Puis un peu plus loin, on arrive, continuer sur la rue Saint-Anne, on est rendu au kilomètre 1. Par rapport à ça. Alors, ça continue comme ça, dans le fond, là, on est au kilomètre 1 sur 9 kilomètres, là, de marche, là. Donc, ça vous donne quand même une idée que le parcours est très précis et que si ça vous tente de le faire vous-même, vous pouvez aller chercher, dans le fond...
Oui, sur le site.
Sur
là.
Le
oui,
site,
oui.
Et puis... et voilà. Puis ça varie selon les années un peu le parcours parce que des moments donnés, il y a des escaliers qui sont comme en réparation. Comme je vous disais, l'escalier des Franciscains maintenant est fermé. Là, il est même complètement démoli. Il y en a des fois, ils font juste changer les marches. Mais là, ils ont même enlevé la structure de béton au complet.
Tout refaire.
Tout refaire vraiment de haut en bas.
Donc, c'est dire qu'il y en a pour tous les goûts. Mais on n'est pas obligé de le faire en mode compétition comme vous nous le mentionniez tantôt. On peut même, comme vous nous le rappelez, marcher dans les escaliers de manière juste utilitaire, artistique, pour le plaisir des vues qui s'offrent à nous, ou en combinant plusieurs usages en même temps.
Tout à fait, Denis.
Alors, merci beaucoup, Michel, de nous avoir éveillé à une dimension de la marche à laquelle on ne penserait peut-être pas spontanément, celle qui se passe dans les escaliers. Et merci pour cette deuxième saison où vous nous avez partagé vos trouvailles du serein pèlerin et pour cette cinquième saison comme chroniqueur.
Bien, Denis, ça fait toujours bien plaisir de vous retrouver et de retrouver nos auditrices et auditeurs.
Et c'est un rendez-vous pour la sixième saison.
Ah, c'est ce qu'on verra. Tout probablement, effectivement. Alors, merci, Denis.
Merci à vous, Michel. Thank you. Chers amis, c'est ainsi que se termine cet épisode de Marcher vers le bien-être. Nous espérons qu'il vous a plu. Je tiens à remercier de leur participation Noëlla Groulot et notre serein pèlerin Michel O'Neill. Merci également à Lysandre Duplé à la technique. Et merci à vous toutes et tous d'avoir été des nôtres pour Marcher vers le bien-être. Je vous rappelle que Marcher vers le bien-être est diffusé les mardis à 22h et rediffusé les mercredis à 11h, les vendredis à minuit et les samedis à 10h. Vous pouvez aussi l'écouter en direct sur le site de Radio VM ou en différé sur le site jemarchepartout.com où vous trouverez descriptifs et références pour tous les épisodes. Un moteur de recherche vous permet d'ailleurs d'y trouver rapidement les sujets qui vous intéressent et de télécharger les épisodes choisis. Je vous laisse cette semaine avec une pensée d'Amine Malouf. En revenant à pied vers la maison, j'avais l'étrange sensation de commencer une nouvelle vie. Sur ce, je vous souhaite bonne route et à la prochaine!